Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Yvan Rioufol, journaliste, éditorialiste, essayiste et chroniqueur sur CNews et fidèle voix libre de notre antenne. Je rappelle qu'il est l'auteur de La Révolution des Oubliés aux éditions Fayard, un livre coup de poing paru cette année. D'ailleurs, je reprends... La révolution du bon sens a déjà gagné les esprits. Le vieux monde politique ne tient qu'à un fil. Au moment où une canicule révèle les contradictions d'un État qui multiplie les interdictions tout en étant impuissant face à l'insécurité grandissante, où le drame de Narbonne a bouleversé la France et où la liberté d'expression elle-même est menacée, Yvan Rioufol est l'un des observateurs les plus lucides du délitement de notre pays. Nous allons évoquer ensemble la France des oubliés face à cet État nounou qui semble avoir renoncé à protéger les siens. Eh bien, Yvan Rioufol, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Jean-Étienne Posa, merci de votre invitation.
Je vous en prie. Donc, vous avez quitté Le Figaro après des années, entre autres, hein, de bloc-notes. Voilà. Vous êtes désormais donc, chroniqueur sur CNews, toujours Europe 1 ou...
Oui, un petit peu à Europe 1, un peu à CNews, un peu chez Causeur. Et un peu chez vous.
Et c'est ce que j'allais dire, bien sûr, Radio Courtoisie. Votre dernier livre, La Révolution des Oubliés chez Fayard, est un appel à la révolte des Français, on va dire, maltraités par les élites. Hein. Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qui vous a poussé à l'écrire et quel est le message central que vous adressez aux auditeurs ?
Bon, le message central est de dire, en fait il est très simple, c'est de dire que ce sont aujourd'hui les Français qui ont la solution, c'est-à-dire que nous assistons à l'effondrement d'un régime, à l'effondrement d'un système de 50 ans de mondialisme, si vous voulez, pour aller vite, d'un système qui a été confisqué par une caste, qui a été confisqué par des élites qui, très systématiquement, n'ont pas voulu entendre ce que réclamait le peuple, ou du moins ont imposé au peuple ce qu'elle pensait être bon pour lui. Or, on se rend compte aujourd'hui que la somme des décisions qui ont été prises depuis maintenant 50 ans, à travers des idéologies déconnectées de la vie des gens, cette somme de décisions a fait en sorte que le peuple se sent aujourd'hui agressé, le peuple français se sent agressé dans sa propre existence. Et donc, c'est ce constat que je fais, alors qui a été fait par d'autres, mais simplement, je veux aller au-delà et faire comprendre qu'aujourd'hui, alors même qu'il y a pléthore de prétendants pour la présidentielle, il n'y a plus d'homme providentiel. Et que le seul homme providentiel aujourd'hui, si je puis dire, c'est le peuple providentiel. Et donc, j'invite aujourd'hui les hommes politiques à cesser de dire « moi je », mais à parler, mais à dire « nous ». On a besoin maintenant d'hommes politiques qui disent « nous », on a besoin d'hommes politiques qui soient prêt à partager le pouvoir, même institutionnellement dans le fond, avec tout ce peuple oublié, avec ce parti du peuple que j'appelle à se manifester encore davantage, ce qui signifie que en ce qui me concerne, je trouve que la Ve République et la présidentialisation telle qu'elle avait été conçue pour des grands hommes ne correspond plus à l'offre politique actuelle. Donc j'inviterai, mais dans l'urgence, c'est trop court, nature, mais j'inviterai à ce que l'on réfléchisse davantage à davantage de parlementarisme, en tout cas à une institution des référendums d'initiative populaire, afin de faire participer l'ensemble de ces Français oubliés qui d'abord sont révoltés, sont excédés et sont prêts en effet à acter une rupture, une radicalité, une révolution, c'est ce que ainsi que je l'ai appelé, qui est une révolution qui a été théorisée d'ailleurs même aux États-Unis à travers cette révolution du bon sens qui était celle lancée par l'administration Trump avec des hauts et des bas bien entendu, mais je trouve que cette révolution du bon sens, c'est-à-dire cette révolution qui balaye toutes les idéologies qui ont été déconnectées des réalités et qui ont fait le malheur du peuple français, cette révolution du bon sens est maintenant irréversible. Et donc, il faudrait que les hommes politiques s'en aperçoivent.
Nous avons traversé, je ne vais pas vous l'apprendre, une canicule. Hein, le gouvernement, via le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et les préfets, multiplient les mesures, hein, interdiction de vente et consommation d'alcool sur la voie publique. dans de nombreux départements, cellules de crise interministérielles, etc. Hein. Vous parlez souvent de l'État nounou, n'est-ce pas ? N'est-ce pas l'exemple parfait de cet État qui infantilise les citoyens tout en étant impuissant, on va dire, face aux vraies urgences, que ce soit insécurité, M. Ruffol, dette, services publics défaillants ?
Ben, vous avez tout dit, l'État nounou devient très vite l'État neuneux. C'est-à-dire que l'on voit en effet qu'à travers les crises, alors les crises sanitaires d'un côté ou les crises climatiques de l'autre, l'État mama, tel que Jean-François Revel l'avait appelé de son côté, mais ça revient au même, l'État nounou, c'est pareil, l'État mama essaie de feindre une protection et une proximité avec le peuple qu'il n'a plus, et qu'il n'a plus pour les raisons que vous avez dites, à travers son incapacité à protéger de l'insécurité, notamment, ou de l'insécurité criminelle, mais de l'insécurité économique aussi. Et donc, à mesure que l'État s'effondre et montre son irresponsabilité, son incapacité à répondre aux urgences, vous le voyez, en effet, qui mime un rôle protecteur, un rôle maternel, dans des multiplications de décisions saugrenues. Alors, ça avait été l'apothéose pendant le Covid, où on avait été sommé de remplir nous-mêmes des autorisations de sortie, on était prié de ne pas dîner avec sa grand-mère ou son grand-père, etc. On devait prendre un café debout ou assis, on ne savait plus exactement.
Et là, c'est un délire, une chose.
On a entendu le ministre de l'Intérieur se flatter d'avoir pris plus de 300 décrets pour interdire telle réunion sportive, telle réunion culturelle, ou même pour interdire de boire du vin, du rosé ou autre chose en certains lieux, à certaines heures, etc., avec des mesures totalement inefficaces, inefficientes, et qui n'avaient que pour seul but, en effet, que de feindre une mise en scène d'un État protecteur. Or, l'État n'est plus protecteur. C'est bien, d'ailleurs, c'est bien ceci qu'il faut acter aujourd'hui, c'est qu'il y a une faillite de l'État, une faillite de cet État ventripotent, qui devrait d'ailleurs inciter de plus en plus d'ailleurs à se tourner vers des solutions libérales. Alors ça, c'est un débat induit que je n'en ai pas le temps de poser, mais que j'ai essayé de poser ce matin dans la chronique que j'ai faite, enfin mardi matin dans la chronique que j'ai faite sur Radio Courtoisie, de dire que l'effondrement de l'État devrait maintenant inciter en effet les hommes politiques à se tourner vers des solutions libérales qui ne sont celles qui sont pour l'instant défendues que par très peu de, enfin par Ciotti, par Bardella un petit peu, par David Lisnard. Mais enfin, voilà, c'est un petit peu, voilà quel est l'état, me semble-t-il, de la société.
Comme vous dites si bien, très peu défendu, oui. Effectivement.
Ah ben, très peu défendu pour l'instant, oui, parce que nous sommes dans une tradition centralisatrice, jacobine, qui pense que l'État est le sauveur en tout et que l'on attend encore, que l'on pourrait attendre tout de cet État nounou. Or, on voit bien que cet État nounou est en train, encore une fois, de jouer une comédie qui pourrait essayer de faire oublier qu'il a renoncé à tous ses pouvoirs régaliens et singulièrement qu'il a renoncé à protéger les gens, tout simplement, à protéger les gens de la sécurité, de l'immigration incontrôlée, à faire tenir des services publics. Il suffit maintenant de prendre un train. Moi, je prends des trains assez souvent pour se rendre compte que la SNCF est devenue une catastrophe. C'est-à-dire que vous prenez un train, vous ne savez pas à quelle heure vous allez arriver, très systématiquement. Et donc, ce sont des sauts dans l'inconnu. Et tout ceci montre qu'il y a maintenant une sorte de processus de tiers-mondisation pour partie dans certains services publics, alors même que les Français n'ont jamais payé autant d'impôts pour alimenter ces services publics. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Et donc c'est tout un système qu'il faut changer.
Cher Ivan Rioufol, juste un petit message pour les auditeurs de Radio Courtoisie.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 Boulevard Murat, 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. Ivan Ruffol, le lynchage mortel du jeune Louis, hein, 17 ans, à Narbonne le 19 juin dernier par 5 adolescents, dont des mineurs issus de l'aide sociale à l'enfance, avec vidéos circulant, hein, sur les réseaux, a choqué, ce qui me semble un peu normal. Sa mère parle de temps de la guerre plutôt que de deuil. Que révèle selon vous cet épisode sur l'ensauvagement de certaines institutions et l'échec de l'État dans la prise en charge des jeunes en difficulté?
Ça illustre totalement, effectivement, l'incapacité de l'État à protéger, à être protecteur de ses propres citoyens, parce que dans le fond, la victime qui est donc a été tuée à coups de pied dans la tête par 5 autres adolescents qui sortaient aussi de l'aide sociale à l'enfance, sont tous des enfants qui avaient été confiés à cette institution publique, à cette institution dépendante de l'État et qui a la prétention de venir en aide à des parents désemparés. Or, on voit que au cœur même de l'aide sociale à l'enfance, et d'ailleurs je m'étonne que les médias ne creusent pas davantage la dérive de cette aide sociale à l'enfance, on voit qu'au cœur même de l'aide sociale à l'enfance, l'ensauvagement s'est installé comme quasiment une évidence. Et d'ailleurs, il est très choquant de remarquer que, encore une fois, le ministre de l'Intérieur trouve désobligeant ou malheureux que d'avoir à parler d'ensauvagement. Mais comment ne peut-on pas parler d'ensauvagement quand on voit cette scène atroce de lynchage d'un jeune garçon qui a été laissé pour mort durant toute une nuit et récupéré agonisant, mais malheureusement trop tard, après avoir été tabassé par ses petits camarades qui ont crié le voyant à terre « Voilà, on l'a mis KO ». Donc ça. Vous vous rendez compte un peu de la bestialité qui habite aujourd'hui d'abord, naturellement, toute une partie d'une délinquance, et surtout, et c'est là le point le plus révoltant, qui habite une institution publique qui avait pour vocation de protéger l'enfance. L'aide sociale à l'enfance a montré effectivement quelle était sa déliquescence, sa dérive, son inutilité vraisemblablement, et en tout cas qu'elle est aujourd'hui devenue le théâtre potentiel. Je ne veux pas généraliser, je n'ai pas tous les éléments en tête, mais le théâtre potentiel d'autres violences et d'autres viols, parce qu'il y a beaucoup de viols maintenant qui sont également qui ont été identifiés au cœur de cette aide sociale à l'enfance. Donc, encore une fois, si j'avais à démontrer effectivement l'échec, la faillite de l'État dans son rôle protecteur, et protecteur précisément des plus fragiles, c'est-à-dire des enfants, eh bien, l'aide sociale à l'enfance montre à quel point effectivement l'État aujourd'hui a failli.
Oui, ça devient un peu trop répétitif à mon goût, oui. Non.
Oui. Et d'ailleurs, remarquez que la réaction de la mère, effectivement, a été tout à fait remarquable, comme la réaction de sa tante. Et je vous invite à regarder de plus près, d'ailleurs, les révoltes maintenant de toutes les familles de ces jeunes victimes, qu'elles soient victimes d'OQTF ou de jeunes Français issus ou non de l'immigration. D'ailleurs, c'est dans l'ensauvagement maintenant qui se généralise. Vous vous rendez compte que ces familles aujourd'hui n'acceptent plus leur rôle de victime et demandent des comptes. Elles accusent l'État très généralement. Rappelez-vous de Madame Harmonie Comine il y a 2 ans en disant « J'accuse la France d'avoir tué mon mari ». Et maintenant, vous vous rendez compte qu'il y a une sorte de jurisprudence, si je puis dire, de toutes ces familles qui accusent l'État, qui demandent qui demandent des comptes à la justice notamment, ou comme la tante de Louis qui incite justement à l'opinion à récupérer cette affaire précisément parce que cette affaire devient insupportable et qu'il faut, espère-t-elle, ces familles, il faut essayer de réveiller cette torpeur d'un État ventripotent qui ne voit pas la détresse humaine.
Yvan Ioffol, l'ARCOM a récemment mis CNews en demeure pour déséquilibre manifeste dans l'expression des opinions, sécurité, immigration, islam, etc. Le patron de Canal+, Maxime Saada, y voit une décision politique. Partagez-vous cette lecture et assistons-nous à une tentative de museler les voix dissidentes à l'approche de 2027.
C'est une évidence, mais ceci est une obsession qui ne date pas d'hier. Elle date des premiers pas d'Emmanuel Macron en 2017, c'est-à-dire que dès son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron a voulu mettre sous surveillance les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui sont devenus le nouveau contre-pouvoir, c'est le nouveau quatrième pouvoir, tant aujourd'hui le pouvoir médiatique s'est compromis en étant toujours systématiquement du côté du manche. Et donc c'est au cœur même des réseaux sociaux aujourd'hui que se façonne la parole alternative. Et donc, dès le départ, la Macronie a voulu, au prétexte de sanctionner des propos dits haineux ou des propos dits racistes, sans définir ce qu'était la haine ou le racisme, dès que vous abordez un problème lié à l'immigration, vous êtes susceptible de tomber sous des propos haineux ou racistes, selon la doxa. Et donc, il y a eu effectivement cette dérive liberticide, cette dérive d'une censure revendiquée par le pouvoir, et qui a été le pire, qui a été approuvé par une grande partie de la profession. C'est-à-dire que les journalistes eux-mêmes, depuis le départ, enfin les journalistes mainstream, ceux de la presse dite labellisée, la presse du gouvernement, la presse de gauche, pour aller plus vite, acquiesce à ceci. Et alors, au-delà de... Et donc, dans cette dérive, on a vu aujourd'hui qu'en effet, maintenant, c'est le groupe Reporters sans frontières, donc qui représente en effet la profession des journalistes, qui lui-même alimente des procédures en visant à faire taire maintenant Exactement. CNews, après avoir réussi à faire taire C8 et à faire taire CNews avec l'appui alors, du gouvernement, puisque l'ARCOM est malgré tout, même si c'est une institution prétendument indépendante, le président est nommé par l'exécutif, et avec également la nouvelle jurisprudence du Conseil d'État de l'année dernière qui estime que le pluralisme n'est pas simplement un pluralisme externe, c'est-à-dire que CNews n'est pas simplement obligé de comptabiliser les paroles à équivalent, les paroles politiques dans un équilibre que CNews respecte naturellement, mais qu'elle doit maintenant également se plier à un équilibre interne, c'est-à-dire de comptabiliser également les temps de parole des éditorialistes ou de ceux qui prennent la parole et qui ne sont pas politiques. Par exemple, moi qui suis éditorialiste et qui prends parfois la parole à CNews, enfin le lundi et le mardi, j'y participe à des émissions, je suis considéré dans cette logique comme étant, enfin ma parole est considérée comme pouvant être comptabilisée parmi d'autres. Et donc on a une aberration de voir qu'aujourd'hui vous avez une instance publique qui essaye de s'immiscer dans une ligne éditoriale d'une chaîne privée, et afin effectivement de la prendre en défaut et de la faire taire au bout du compte. Ce que dit Maxime Saada est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pouvoir ne supporte plus la moindre parole dissidente, il y a une dérive illibérale, une dérive que l'on a vue dans des pays totalitaires, dans des pays staliniens, qui devrait révulser l'ensemble de la profession, l'ensemble des journalistes, et qui est applaudi par une partie de cette profession, une partie de ces journalistes. Vous voyez par exemple que Libération se félicite en effet de cette démarche de l'ARCOM, et vous avez, Dieu merci aujourd'hui, des pôles de résistance dans les réseaux sociaux, dans les chaînes alternatives que vous représentez, dans les radios alternatives, et également dans le groupe CNews qui refuse de cirer les bottes du pouvoir. Mais effectivement, le pouvoir va devenir de plus en plus méchant à mesure effectivement qu'il va s'apercevoir qu'il ne maîtrise plus le discours officiel. Oui, et c'est ceci qui est d'ailleurs très intéressant à observer, c'est-à-dire qu'il y a une demande de vérité de la part de l'opinion qui a bien perçu effectivement que les médias ne jouaient plus leur rôle. Les médias font partie avec les juges de la profession avec les juges et les hommes politiques de la profession qui est rejetée en règle générale par le monde politique, par le monde, par la société civile quand elle s'exprime à travers des sondages. Et donc, on voit bien que toutes ces citadelles, ces citadelles de mandarins réfugiés dans leur cité interdite, sont appelées à être ébranlées par la colère française, parce que moi je vois comme étant une révolution française qui est en train d'advenir et qui va faire tomber toutes ces citadelles afin effectivement de libérer la parole. Comme la parole a pu libérer l'Union soviétique à travers la glasnost de tous ses mensonges en faisant s'effondrer le mur de Berlin, j'espère qu'au bout du compte, le mur du politiquement correct qui vraiment nous étouffe depuis maintenant 50 ans tombera assez vite et l'échéance naturellement qui pourrait mesurer cette révolution sera bien sûr la prochaine présidentielle dans maintenant 10 mois d'ailleurs, ou 11 mois, enfin en mai prochain.
La dette publique a dépassé les 3 500 milliards d'euros. Hein. L'État ventripote multiplie les dépenses et les interdictions. Hein. L'État ventripotent plutôt multiplie les dépenses et les interdictions tout en étant incapable de réformer en profondeur. Donc, vous parliez tout à l'heure de la SNCF, par exemple. Selon vous, quelle est l'alternative libérale au souverainisme viable face à ce Léviathan ?
Déjà, constatons effectivement que la faillite de l'État n'est pas simplement une faillite sécuritaire, c'est une faillite financière. Constatons que le Mozart de la finance a endetté la France en 10 ans alors je n'ai plus le chiffre exact, de plus de 1 000, plus 1 000 milliards,
Non.
1 300 milliards, je crois, enfin de mémoire, un peu plus même encore. Donc on voit qu'il y a tout de même, et que la France aujourd'hui, selon certains experts, pourrait se voir être mise sous tutelle du FMI, comme a pu l'être la Grèce il y a une dizaine d'années. Donc vous vous rendez bien compte quand même de l'effondrement de tous ces prétendus spécialistes qui disent des autres partis qui prétendent maintenant gouverner la France qu'ils sont incompétents et incapables. Enfin, l'incompétence, on la voit aujourd'hui au cœur même de ceux qui prétendaient maîtriser la finance publique. Et donc, on voit bien encore une fois que l'État a failli en tout et qu'il est temps, en effet, et ça c'est une réflexion que je propose pour l'élection présidentielle à venir, qu'il est temps aujourd'hui de remettre en cause l'État dans toutes ses incompétences. Alors garder l'État naturellement dans son rôle régalien, la défense, l'éducation peut-être, enfin la sécurité en tout cas, mais on voit que pour un certain nombre de grands sujets, et singulièrement sur l'effondrement des services publics, je parle de l'éducation nationale notamment, mais même les transports, pour prendre un train aujourd'hui, ça devient épouvantable, je ne vais pas y revenir. Il y a aujourd'hui des solutions d'abord de privatisation, de mise en concurrence, et plus généralement, il faut que l'idée libérale, qui d'ailleurs est le meilleur des contrepoisons contre la dérive totalitaire qui s'observe à travers notamment les prises de position de la France insoumise et de son attrissement auprès des médias, que la dérive libérale, que le
Le
libéralisme
libéralisme.
est le meilleur des antidotes d'abord au totalitarisme et surtout est le meilleur des antidotes afin de libérer toutes les initiatives privées. Moi, partant de cette hypothèse qu'en effet la société des oubliés que je décris est une société qui se rebelle pour l'instant, qui se révolte contre l'État, elle fait elle-même, si je puis dire, le premier pas vers un libéralisme qui vraiment se lie à travers la remise en question de l'omnipotence de ce Léviathan. Et donc, la société civile, si je puis dire, fait du libéralisme sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le
Sans
savoir. Et
savoir.
donc, il faut que les hommes politiques s'emparent de ce sujet. Ça commence à être fait avec David Lisnard, ça commence à être fait avec Monsieur Ciotti, et je crois comprendre que Jordan Bardella également semble perméable à une vision plus libérale que ne l'est la vision de Marine Le Pen. Je crois qu'il y a là quand même des dissensions entre les deux. Mais il faudrait effectivement que la France aujourd'hui sorte de ses réserves, qui sont des réserves qui sont historiques. En effet, la France a été construite par l'État. Le jacobinisme est quelque chose qui, le centralisme est quelque chose qui est applaudi par encore sans doute une majorité de Français, et encore ce serait à voir. Mais moi, je pense en tout cas, pour être libéral depuis toujours, non pas ultra-libéral, mais libéral, c'est-à-dire que je pense que l'initiative privée est toujours bien, bien supérieure à l'initiative publique, en tout cas dans toute la gestion du quotidien, que cette option-là est une option qui devrait être défendue encore plus ardemment et qui, elle, participera précisément à la libération de la société civile de tous ces carcans idéologiques et de toutes ces structures aujourd'hui inefficaces, inefficientes.
Il nous reste, malheureusement, ça passe très vite, 2 minutes. Dans votre livre, vous rendez hommage au populisme comme réaction légitime des oubliés. Comment le distinguez-vous du populisme caricaturé par les élites? Et que faudrait-il pour que cette révolution des oubliés aboutisse à un vrai changement de cap?
Le populisme, pour moi, n'est pas un grand mot. Le populisme, c'est simplement la démocratie qui est une démocratie qui retrouve sa définition d'être un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est ça, le populisme, tel que je le comprends. Et le populisme, ce n'est pas cette caricature qui est faite par le discours officiel et toutes les élites en place qui croient y voir une dérive d'extrême droite ou une dérive fascistoïde. La dérive fascistoïde, la dérive totalitaire, elle est précisément dans cette démocratie confisquée qui refuse d'entendre le peuple. Et c'est ceci qu'il faut bien comprendre. Et l'aboutissement de cette réflexion, elle est en effet d'aller au bout, puisqu'on a la chance d'avoir une échéance présidentielle considérable dans quelques mois. Il faut aller au bout, effectivement, du procès qui est fait aujourd'hui à cette oligarchie, à ces régimes qui a été confisqué aux mains de quelques-uns, afin, effectivement, de rompre, c'est-à-dire de rompre avec notamment le centrisme mou, de rompre avec cette droite molle, si encore elle veut s'allier avec ce centre qui a été néfaste en beaucoup de points, afin, effectivement, d'acter un renouveau démocratique et d'acter la fin de ce système dont je vous ai décrit les travers au tout début de notre conversation. Je pense que, en effet, le peuple a son destin en main, le peuple a les clés en main, et si vous voyez que toute l'intelligentsia, la nomenclatura s'affole, c'est parce qu'elle sent bien aujourd'hui qu'en mai prochain, bon, on ne connaît pas encore exactement la date des élections, mais enfin ce serait a priori en mai prochain, il pourrait se passer en effet ce que j'espère être une révolution démocratique naturellement, une révolution pacifique, mais une révolution populaire, enfin qui redonnerait en tout cas au peuple son rôle majeur dans la conduite d'une politique.
Eh bien, écoutez, Yvan Youfol, ce sera le mot de la fin, malheureusement. Merci infiniment pour
Merci
cette analyse lucide et sans concession. Vous nous rappelez que la France des oubliés n'est plus disposée à subir en silence le délitement organisé de notre pays. Chers auditeurs, à l'approche de 2027, l'heure n'est plus aux demi-mesures. Hein, c'est bien la révolution du bon sens et du courage qui se dessine. Yvan Youfol, nous vous retrouvons très vite sur notre antenne. Hein. Merci à vous tous d'ailleurs d'avoir été avec nous. J'espère pouvoir vous réinviter bientôt, cher Yvan Youfol.
Je suis à votre disposition.
Eh bien écoutez, tant mieux. Restez vigilants, restez libres. À mercredi prochain et bonne semaine.